DW. Le journal. Constance Fischer.
17h en temps universel, 18h à Bonn dans nos studios. Soyez les bienvenus à l'écoute de la radio internationale allemande. À la une de ce jeudi 2 janvier 2020, les réactions après l'élection présidentielle en Guinée-Bissau et l'annonce de la victoire de Umaro Sissoko Embalo, le candidat de l'opposition. Malgré l'alternance au pouvoir au Soudan, les violences continuent dans la région du Darfour. Nous essaierons de comprendre pourquoi. Et puis on parlera aussi d'Isabel Dos Santos, fille de l'ancien président angolais et femme la plus riche d'Afrique. Mais pour combien de temps? La justice a en effet ordonné le gel de ses comptes bancaires et de ses actifs. Mais avant de développer tous ces titres, le tour des dernières nouvelles du monde avec Marco Voltaire.
Bonsoir à toutes et à tous. Ça y est, le président de la Turquie a le feu vert de son parlement pour envoyer des soldats en Libye. Les députés ont approuvé une motion qui manquait à Recep Tayyip Erdogan pour pouvoir déployer son armée et soutenir le gouvernement de Tripoli. L'armée turque dispose désormais d'un mandat d'un an pour intervenir en Libye. À voir comment le président Erdogan va désormais gérer ce dossier. Il a en tout cas les coudées franches. Côté réaction, eh bien on remarque surtout le mutisme de l'Union africaine.
Et de ce silence, Marco, on va en parler en détail dans le journal d'ici quelques instants. La Tunisie a par ailleurs un nouveau gouvernement.
Oui, c'est le Premier ministre tunisien Habib Jemli qui a présenté aujourd'hui son cabinet composé de personnalités indépendantes. Il aura donc fallu attendre un mois et demi de tractations difficiles pour aboutir à ce gouvernement qui est composé de 28 ministres, dont seulement 4 femmes. Plusieurs ministres sont totalement inconnus du grand public. Au Parlement maintenant de valider la liste.
En Irak, des dizaines de véhicules blindés sont postés autour de l'ambassade américaine à Bagdad.
Ce sont des unités d'élite du contre-terrorisme irakien qui ont été déployés aujourd'hui pour renforcer la sécurité de la représentation diplomatique dans la zone verte de la capitale irakienne. L'ambassade des États-Unis a été la cible mardi d'une attaque inédite de manifestants favorables à l'Iran et qui avaient protesté contre une offensive de l'armée américaine. On voit encore taguer sur le bâtiment des graffitis pro-Iran. Washington dit d'ailleurs craindre de nouvelles attaques contre ses intérêts en Irak. Un épisode de tension qui éclipse quelque peu les manifestations populaires en Irak, des manifestations dirigées contre le pouvoir en place, alors que le pays est sans gouvernement depuis fin novembre.
C'est moi seul qui ai organisé mon départ.
Et c'est Carlos Ghosn qui le dit. L'ancien patron de Renault-Nissan a réussi à fuir le Japon. Il est poursuivi pour des malversations financières et où un procès l'attendait. Carlos Ghosn se trouve désormais au Liban, qui a déjà reçu une demande d'arrestation de la part d'Interpol. Mais les autorités libanaises auraient déjà répondu par une fin de non-recevoir, puisque l'homme d'affaires déchu possède une carte d'identité libanaise et un passeport français. Carlos Ghosn a réussi à rejoindre le Liban grâce à plusieurs vols en jet privé, en passant notamment par une escale dans un aéroport de marchandises à Istanbul. Les autorités turques ont interpellé plusieurs personnes aujourd'hui, des personnes soupçonnées d'avoir été complices dans cette opération d'exfiltration.
Une autre personne en fuite, c'est l'indépendantiste catalan Carlos Puigdemont,
qui est en Belgique depuis déjà 2017, après la tentative de sécession de la Catalogne, et il devrait pouvoir y rester, bien que l'Espagne réclame son extradition pour pouvoir le poursuivre en justice, ainsi que d'autres responsables catalans. Mais la justice belge a décidé aujourd'hui de suspendre la procédure engagée pour remettre Carlos Puigdemont aux autorités espagnoles, et ce au nom de l'immunité dont il bénéficie en tant qu'eurodéputé.
2020, c'est une année électorale décisive aux États-Unis. Alors, un second mandat pour Donald Trump ou non, ça se questionne.
Et à cette question, l'équipe de campagne du président américain affiche aujourd'hui une réponse en dollars. Donald Trump a levé pas moins de 46 millions de dollars de fonds au dernier trimestre 2019. C'est son meilleur score pour toute l'année, malgré ou à cause de la procédure de destitution lancée par les démocrates. En tout, le président américain dispose déjà de 143 millions de dollars pour la campagne. Pendant ce temps, en comparaison, la meilleure levée de fonds du côté démocrate est de 96 millions pour Bernie Sanders. Et encore, cet argent va déjà en grande partie à la bataille de la primaire du parti pour savoir qui va pouvoir se présenter face à Donald Trump.
C'était le Flash Info avec Marco Voltaire, la suite du journal.
DW.
Nous vous le disions en titre, en Guinée-Bissau, l'élection présidentielle a donc été remportée par Oumaro Sissoko Embalo. L'ancien Premier ministre et candidat de l'opposition a été élu président avec 53,55% des suffrages exprimés contre 46,45% pour son adversaire, Domingo Simoes Pereira. Le chef du PAIGC, le plus grand parti du pays, a dénoncé des fraudes et ne compte pas en rester là, tout comme ses partisans d'ailleurs. Ali Farhat, vous nous en dites plus.
Des scènes de joie dès l'annonce des résultats par la Commission nationale électorale, un concert de klaxons et de casseroles. Il y avait de l'ambiance hier après-midi dans les rues de Bissau, la capitale. Il faut dire que c'est une véritable remontée fantastique qu'a réalisé Oumaro Sissoko Embalo, accusant 12 points de retard sur son principal adversaire, Domingo Simoes Pereira. À l'issue du premier tour, le candidat du MADEM, le parti de l'opposition, est parvenu à remonter la pente et à s'imposer avec un écart de 7 points. L'homme au keffiyeh rouge et blanc n'a pas tardé à faire savoir ce qu'il voulait faire pour son pays maintenant qu'il en est à la tête.
La Guinée-Bissau a un nouveau président de la République depuis le 1er janvier. Et c'est moi, Oumaro Sissoko Embalo. La Guinée-Bissau va cesser d'être ce pays que vous connaissez, où n'importe qui fait n'importe quoi. C'est fini. La Guinée-Bissau va devenir un pays respecté dont aucun citoyen ne sera exclu. Je ferai de la Guinée-Bissau un pays auquel tout le monde peut contribuer de manière directe ou indirecte par la réconciliation et la confiance mutuelle. Plus jamais ce pays ne sera divisé.
Alors, comme on pouvait s'y attendre, Ali, dans le camp adverse donc de Domingo Simoes Pereira, cette défaite passe mal. Hein.
Le chef du PAIGC, le plus grand parti du pays, a déclaré que ses résultats provisoires étaient pleins d'irrégularités, de nullités et de manipulations et constituent donc une fraude électorale. La gogne a été également palpable du côté de ses supporters, comme cette dame interviewée dans les rues de Bissau et qui s'estime lésée.
Nous n'allons pas accepter ces résultats. Nous sommes ceux qui ont remporté cette élection, c'est clair et net. Rendez-nous nos résultats, nous sommes fatigués.
Ouais, on sent la colère. Hein. Et qu'en est-il alors du Premier ministre, du nouveau président ?
Alors, selon la constitution bissau-guinéenne, c'est le parti majoritaire au Parlement qui doit désigner le chef du gouvernement. Or, le parti majoritaire est toujours le PAIGC de Domingo Simoes Pereira, qui vient de perdre la présidentielle. Donc, ceci étant, si le Premier ministre proposé par le PAIGC ne convient pas à Oumaro Sissoko Embalo, alors ce dernier aura tout à fait le droit de le révoquer.
Autrement dit, on n'a pas fini de parler de la Guinée-Bissau. Ali, merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Fiacre Ndaye Aguidje, qui nous a rejoint studio et qui a scruté aujourd'hui les réseaux sociaux pour nous. Fiacre, cette élection en Guinée-Bissau a aussi beaucoup fait parler d'elle sur la toile. Hein.
Exactement. Abdourahmane Koulibaly en Guinée est optimiste. Oumaro Embalo connaît très bien la scène politique bissau-guinéenne. Nous écrit-il sur Facebook. Il a été Premier ministre et en haut gradé de l'armée. Abdourahmane Koulibaly veut croire que Oumaro Embalo est l'homme de la situation. D'autres, à l'instar d'Obedi Olengedou du Cameroun, félicitent le peuple bissau-guinéen pour cette alternance pacifique au sommet de l'État. Notre auditeur écrit, ils viennent de démontrer que malgré les coups d'État à répétition, le peuple a le dernier mot.
Alors, on vient de l'entendre, Fiacre, Oumaro Embalo n'aura pas la majorité au Parlement. Et du coup, certains de nos abonnés estiment aussi que sa mission ne sera pas facile.
Oui, c'est le cas de Paul Godot de Côte d'Ivoire, qui estime que le véritable pouvoir restera au Parlement pour bien diriger le pays. Oumaro Embalo et sa formation politique sont donc obligés de remporter aussi les législatives, dit-il. Or, au premier tour de la présidentielle, le MADEM, son parti politique, avait récolté seulement 28% des voix contre 40% de la majorité représentée par Pereira. Donc, c'est de ces résultats, on peut déduire qu'Oumaro Embalo aura donc besoin de collaborer avec le PAIGC, prédit Paul Godot. Et pour conclure, coopérer est inévitable, pense aussi Clément Mutombo de Kinshasa, et qui ne croit pas que le parti au pouvoir depuis l'indépendance puisse disparaître aussi rapidement.
Merci beaucoup, Fiacre. On rappelle qu'Oumaro Sissoko Embalo devient le deuxième opposant politique à accéder au pouvoir par les urnes depuis l'indépendance en 1973. En 46 ans, la Guinée-Bissau a connu 4 coups d'État et 16 tentatives de putsch. Si vous voulez vous aussi réagir par WhatsApp, par exemple à l'actualité en Guinée-Bissau ou à un autre thème développé dans ce journal, eh bien il vous suffit de nous envoyer votre message écrit ou audio sur le numéro suivant, le 00 49 pour l'Allemagne, puis 160 97 08 33 48. Vous pouvez également nous laisser un commentaire sur notre page Facebook.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
Plus de 70 morts, c'est le triste bilan de nouveaux affrontements armés qui ont eu lieu au Darfour suite à une querelle entre des membres de la tribu massalite et des Arabes. L'incident a dégénéré, des milices arabes s'en sont prises à un camp de déplacés non loin d'Al-Genaïna. C'est la capitale de la province la plus occidentale du Darfour. Alors outre le lourd bilan humain, l'autre fait troublant, c'est que les célèbres milices Janjaweed du général Emeti, le numéro 2 du Conseil souverain au pouvoir, eh bien elles sont soupçonnées d'avoir participé à cette attaque. Pourquoi, 8 mois après la chute d'Omar el-Béchir, l'alternance au Soudan n'a-t-elle toujours pas permis d'arrêter les violences dans la région du Darfour? Écoutez la réponse de Jackie Mamou, il est président de l'organisation collectif Urgence Darfour. Au micro de Kossi Vitiassou, il explique que les questions de fond de ce conflit ne sont toujours pas réglées.
En tous les cas, ce qu'on savait, c'est que rien n'était réglé. On ne sait pas vers où va évoluer la situation. Et dans ces cas-là, le moindre incident agit comme une étincelle sur un baril de poudre et donc conduit à des affrontements très durs. Et alors, est-ce que ce sont des affrontements ou une attaque? C'est un peu difficile de le dire.
Quand vous dites que rien n'est réglé, cela veut dire que les problèmes qui ont conduit au conflit dans le passé ne sont toujours pas réglés?
Non, ils ne sont pas réglés. Mais si vous voulez, on va rentrer dans le vif du sujet là maintenant, hein, dans les prochains mois. Parce qu'on est sur des négociations de paix avec les différents groupes armés d'opposition au Darfour et ailleurs. Et en ce qui concerne le Darfour, c'est que 2,5 millions ou 3 millions de personnes puissent revenir sur leurs terres, victimes de la répression féroce.
Et on ne sait pas encore si ces milices, notamment les tristement célèbres Janjaweed du général Emeti, ont participé aux violences de ces derniers jours. Mais ce qui est sûr, le général Emeti était aux côtés du chef du gouvernement sur place au Darfour pour rassurer les populations après l'incident. Est-ce à dire que les Janjaweed ne sont pas impliqués dans ces massacres et ces dernières violences?
Vous savez, d'après les articles de presse, les combattants arabes là, impliqués étaient très lourdement équipés. Et équipés de voitures, avec les autres, dans l'article, il était marqué, les autres étaient sur des ânes. Donc, dans ces conditions, il y a fort à soupçonner que des voitures lourdement armées, ça rappelle quand même beaucoup les Janjaweed, hein, et ces forces d'action de soutien rapide de Emeti, hein, les anciens Janjaweed. Donc, maintenant, ça y est, les gens pensent que ces forces-là ont été impliquées dans les massacres.
C'était Jackie Mamou au micro de Kossi Vitiassou. Un pavé dans la mare à présent. Le parquet angolais a décidé de geler les comptes bancaires et les actifs de la fille aînée de l'ex-président José Eduardo dos Santos. La justice soupçonne en effet Isabelle dos Santos, son époux d'origine congolaise, syndicat d'Okolo et leur conseiller financier portugais d'avoir détourné plus $1 milliard d'argent public. Plus de précisions avec vous, Eric Topona.
En effet, Constance Fischer, selon le parquet de Luanda, lorsqu'elle dirigeait la Sonangol, la société nationale pétrolière, entre 2016 et 2017, Isabelle dos Santos, son époux et leur conseiller financier portugais, Mario da Silva, auraient transféré d'importantes sommes d'argent en devises étrangères. Celles-ci auraient bénéficié à des compagnies étrangères dont les accusés sont les bénéficiaires, toujours selon le parquet. Par ailleurs, depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2017, le président João Lourenço a lancé une vaste opération de lutte contre la corruption. Celle-ci a abouti au gel et au rapatriement d'une partie de fonds placés dans des paradis fiscaux par les anciens dignitaires du régime dos Santos. Et pour le journaliste Eduardo Dacha Ribeiro, qui est aussi spécialiste de l'Angola, il ne s'agit pas d'un règlement de compte.
Aujourd'hui, la justice angolaise est tout à fait différente de ce qui s'est passé du temps du père d'Isabelle dos Santos. Parce que Isabelle dos Santos n'est pas la première. et sûrement qu'il y en aura d'autres.
Question, l'ancien président José Eduardo dos Santos, qui vit hors de l'Angola depuis plusieurs mois, sera-t-il la prochaine cible de cette opération main propre? Le consultant belge Daniel Riba, auteur en 2019 de l'Angola de A à Z chez l'Harmattan, n'exclut pas une mise en cause de l'ex-chef d'État en personne.
Il est symptomatique de noter que dans l'ordonnance émise par le tribunal provincial de Luanda, il soit fait nommément état du président dos Santos, qui est accusé d'avoir lui-même mis en place un système pour faciliter le rachat d'une société d'un joaillier suisse. Donc ceci montre quand même que le pouvoir se permet maintenant d'accuser directement l'ancien président de détournement. On passe progressivement à une autre phase.
Accusé d'avoir détourné 500 millions de dollars, mais aussi de blanchiment d'argent et d'escroquerie, José Filomeno dos Santos, le fils de l'ex-président, a été placé en détention provisoire le 24 septembre dernier et son procès a démarré début décembre à Luanda.
Et à noter que selon la justice angolaise, Isabel dos Santos a récemment tenté de protéger ses avoirs en les transférant hors du Portugal. La police portugaise aurait notamment intercepté 10 millions d'euros à destination de la Russie. C'est faux, a réagi la principale intéressée hier sur son compte Twitter. La femme d'affaires a regretté que son droit à la propriété ait été violé de façon désinvolte par le biais de mensonges. Cela ne laisse pas présager d'un avenir radieux pour l'état de droit en Angola. Fin de citation.
Participez à notre jeu concours. Testez vos connaissances sur les émissions de DW Afrique.
Et vous retrouverez la question de la semaine et tous les détails de ce concours sur notre site internet dw.com/français. 17h16, en temps universel, né en Grande-Bretagne en 2006, le mouvement des combattants congolais s'est exporté en France en 2009. Et là-bas, ces activistes sont plus d'une centaine, regroupés en plusieurs groupes, le MPC, Mouvement du Peuple Congolais, ou encore le RCK, Résistants Combattants du Congo, pour ne citer qu'eux. Alors, ces activistes congolais étaient des opposants farouches du régime de l'ancien président Joseph Kabila. Pour eux, l'élection de Félix Tshisekedi il y a un an n'a cependant rien changé à leur combat. Certains combattants soutiennent aussi l'opposant Martin Fayoulou, tandis que d'autres militent carrément pour une nouvelle république. Les détails depuis Paris avec Nadir Djenad.
Dans le milieu des combattants en France, on surnomme Baba Massombo le général. Ancien militaire, il se sert de son expérience pour mener les opérations de son organisation, le Mouvement du Peuple Congolais. C'est un des membres historiques des combattants congolais en France. Aujourd'hui, le combat continue. Il était au départ contre la tenue de l'élection présidentielle il y a un an en RDC, mais aujourd'hui, il soutient Martin Fayoulou.
Moi, j'ai suivi le mouvement du peuple congolais qui ont choisi M. Martin Fayoulou. Celui qui a gagné les élections s'appelle M. président élu Martin Fayoulou. Je le respecte tant que président élu, président du peuple congolais. Il faut que le peuple se soulève. Et qui va faire soulever le peuple? C'est un leader politique. Un leader qui peut dire, bon, aujourd'hui, c'est moi qui ai été élu, je veux que le peuple congolais vous m'amène à la présidence, je vais exercer étant que président de la République. Ce leader qui a été élu, c'est Martin Fayoulou.
Ce n'est pas l'avis de Niki Maserati, une activiste qui rejette l'ensemble de la classe politique congolaise et milite pour une nouvelle république avec un autre drapeau, celui du Zaïre. Dans le milieu des combattants, on appelle ces militants les Zaïrois.
Il faut tout changer en fait. Vraiment, même le nom, il faut le changer. Quoi. On doit retrouver nos couleurs, on doit se retrouver. Parce que tout ce qui est là, ce n'est pas nous en fait. C'est même le nom, ce n'est pas notre nom. On ne se retrouve pas. Et depuis qu'il y a ce drapeau-là, on entend le sang à couler. Quand je vous dis qu'on récupère le drapeau du Zaïre, le drapeau du Zaïre, en fait, nous rappelle l'unité nationale. Parce qu'on nous dit démocratique, il n'y a pas de démocratie dans ce pays-là. Donc, il faut tout changer. Il y a trop de corrompus, il faut changer toutes les têtes. La nouvelle génération, voilà, on est là, quoi. Voilà, nous, on est ici, on a étudié ici, on est parti à l'école, on a appris plein de choses ici, et on peut reconstruire notre pays.
Même si les combattants congolais de France se retrouvent dans la lutte contre le pouvoir actuel en RDC, ils ne sont pas tous d'accord sur les mêmes revendications. Nadir Djenad à Paris pour la Deutsche Welle.
Et en attendant, l'opposition congolaise en RDC juge elle Félix Tshisekedi très mal placé pour dire que tout va aller mieux en 2020. Une déclaration de la plateforme Lakuma après le message du nouvel an du président de la République. Selon le mouvement d'opposition, le chef de l'État est encore resté dans le déni de la vérité en voulant faire croire au peuple qu'il veut une justice sociale. Alors que plus de 200 000 enseignants ne sont pas payés, que les routes sont en mauvais état, qu'il y a des inondations et que les populations sont massacrées dans l'est du pays. Dans son discours du 31 décembre, Félix Tshisekedi a placé le rétablissement de la paix en tête de ses priorités. En 2019, 49 professionnels des médias ont été tués dans le monde, dont 8 en Afrique en raison de leur métier ou dans le cadre d'un reportage. Des chiffres publiés par l'organisation Reporters sans frontières. Ces données comptabilisent aussi 47 journalistes emprisonnés sur le continent. Le cas le plus récent est celui de 4 journalistes burundais et de leur chauffeur, à l'encontre desquels le parquet du Burundi a requis 15 ans de prison. Fiacre, vous êtes toujours à nos côtés et le sujet là aussi intéresse encore beaucoup sur les réseaux sociaux.
Oui, pour le cas des 16 journalistes burundais, SOS Média Burundi lance un appel au soutien et regrette dans un tweet, je cite, « ces vaillants reporters sont victimes d'avoir exercé leur métier. Nous demandons à la justice de reconsidérer le dossier, de revenir sur sa décision qui consiste à enfermer des innocents », poursuit le journal en ligne. Sur son site, Reporters sans frontières critique aussi la décision du parquet burundais. L'organisation déplore également la rétention en prison d'un journaliste gabonais et des mesures drastiques à l'endroit de plusieurs médias en Tunisie. 7 médias tunisiens ont été justement interdits d'accès au palais présidentiel lors de l'entretien entre le président tunisien Kais Saïd et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Sur Facebook, Roméo Ziguin Sekouye de Bounia en RDC nous dit que quelquefois, les journalistes dérapent de leur ligne éditoriale, mais dans tous les cas, ils ne méritent pas d'être tués et leur place n'est pas non plus en prison, réagit Hilaire Salé. Ongbeji de conclure, cette répression des professionnels de l'information n'est pas nouvelle, mais pourquoi le monde reste-t-il silencieux, se demande Ongbeji de Cotonou au Bénin.
Merci beaucoup Fiacre. On peut aussi évoquer le cas du journaliste tchadien Ali Amata Hachen, le correspondant qui est correspondant à Mongo pour la radio Dja FM. Lui a été arrêté le 26 décembre dernier pour diffamation et outrage à magistrat après avoir publié un post sur la lenteur et la corruption au milieu judiciaire. Des faits qui risquent d'être requalifiés, estime sa radio, pour museler le journaliste en lui infligeant une lourde peine. JFM qui demande la libération immédiate et sans condition d'Ali Amata Hachen.
Écoutez-nous sur internet dw.com/français.
Vous l'avez entendu dans le Flash Info, les députés turcs ont donc voté sans surprise une motion autorisant l'envoi de soldats en Libye pour soutenir le gouvernement d'union nationale. Cette mesure risque d'aggraver et de complexifier encore un peu plus le conflit qui déchire la Libye depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011. Elle représente aussi une menace supplémentaire de déstabilisation pour les pays voisins, notamment le Niger et le Tchad. Alors dans ce contexte, comment expliquer le silence de celle qui devrait pourtant avoir le premier mot dans cette crise, c'est-à-dire l'Union africaine? Élément de réponse avec Sédic Abba, il est spécialiste des questions de sécurité et de géostratégie sur le continent.
Je pense qu'au-delà du silence, il faut parler d'une démission totale de l'Union africaine. La Libye est un pays africain et on ne voit pas l'Union africaine s'activer pour rechercher une solution à la crise dans ce pays, sachant que l'Union africaine a créé quand même un comité spécial pour le suivi et le règlement de la crise libyenne qui est présidé par le président congolais Denis Sassou Nguesso. L'Union africaine est quasiment absente, on n'entend pas sa voix, ni même pour dénoncer l'ingérence. Elle laisse faire et à mon avis, c'est une démission inexplicable. Pour une fois encore, l'Afrique va rater la possibilité d'assumer le leadership du règlement d'une crise.
Et pourtant, l'an dernier, en 2019, l'Union africaine avait essayé de reprendre un peu ses marques dans la crise. Elle avait notamment plaidé pour l'envoi d'un émissaire spécial conjoint entre l'ONU et l'Union africaine. Donc, qu'est-ce qui explique que finalement, là, il ne se passe rien?
Non, il y a D'abord, le fait que les Africains en Libye n'ont pas la même position. Il y a l'Égypte qui est aujourd'hui présidente de l'Union africaine qui a une position partisane. Elle soutient le maréchal Haftar. Donc, de ce point de vue, ça affaiblit la position de l'Union africaine. Comment voulez-vous qu'on soit juge et parti? Au-delà de cela, je pense que l'Union africaine devait taper du poing sur la table. Elle devait s'imposer comme leader. Même au Soudan, on a vu que les États-Unis ont essayé d'envoyer un émissaire, d'autres pays ont essayé, mais l'Union africaine s'est imposée comme leader. Il faut qu'elle le fasse en Libye. Et il faut assumer, il faut arracher au besoin le leadership du règlement de cette crise. Je pense que c'est cela qui fera la crédibilité de l'Union africaine pour que le règlement de crise africaine soit assumé par les pays africains.
Et vous pensez que c'est encore possible dans la crise libyenne où le train est déjà parti là?
Non, je pense qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. On ne peut pas régler la question de la Libye sans se soucier des pays qui sont voisins de la Libye. Il faut d'abord que l'Union africaine obtienne la fin des ingérences. Ensuite, ça va lui permettre de reprendre le dossier et de pouvoir faire avancer les choses avec une meilleure implication des acteurs africains sous le leadership de l'Union africaine. Moi, je pense qu'on pourrait arriver vers un début de la fin de la crise libyenne.
Toujours dans la région, de nombreux militants du mouvement de contestation en Algérie ont été remis en liberté provisoire aujourd'hui. Parmi eux, l'une de ces figures, Lakhdar Bourega, 86 ans, vétéran de la guerre d'indépendance contre la France. Son arrestation avait suscité l'indignation de ses compatriotes. Son procès a été reporté au 12 mars, a précisé son avocat. Il est 17h25 et on passe à la revue de la presse des journaux allemands et aux menaces de Donald Trump contre l'Iran. Une fois de plus, le président américain a joué des muscles sur Twitter après l'attaque de l'ambassade des États-Unis à Bagdad par des manifestants pro-Iran. Ils paieront le prix fort. Ce n'est pas une mise en garde, c'est une menace. Les détails avec Marco Voltaire.
Une spirale dangereuse, titre la Süddeutsche Zeitung, qui estime que ces derniers jours ont donné un avant-goût de ce qui attend le Proche-Orient pour 2020, à savoir une nouvelle escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis. Après la succession des événements de ces derniers jours, l'offensive d'abord contre une base militaire américaine en Irak par une milice pro-Iran, puis les raids aériens en représailles des États-Unis, et enfin l'attaque de l'ambassade à Bagdad, voilà que les risques d'une guerre et d'une erreur de calcul désastreuse reste élevé. Pour la S7, il est évident que l'attaque contre la base militaire américaine par une milice pro-Iran a eu le feu vert et l'aval du pouvoir à Téhéran, qui semble de plus en plus être le vainqueur de l'affrontement géopolitique avec Washington. En Syrie, Bachar al-Assad va rester au pouvoir. En Irak et au Liban, Téhéran a pris le dessus, alors que le rival de l'Iran, l'Arabie Saoudite, est en train de vivre au Yémen sa guerre du Vietnam. Dans cette confrontation, la Frankfurter Allgemeine Zeitung aussi attribue le point à l'Iran, alors que pendant plusieurs mois, des manifestants s'étaient rassemblés à Bagdad contre l'influence grandissante de l'Iran. Voilà que tous les groupes politiques irakiens ont condamné l'opération de représailles des Américains. On change de continent pour aller maintenant en Australie, où des oiseaux morts tombent du ciel. La TATS a fait des incendies qui sévissent dans le pays, son thème du jour, notamment à travers le prisme du réchauffement climatique. La température moyenne a augmenté d'un degré en Australie depuis 1910. Il en résulte une végétation plus sèche, selon les experts, ce qui rend les incendies plus agressifs et plus difficiles à maîtriser. Pourtant, le gouvernement australien et son premier ministre se refusent depuis des années à reconnaître l'importance du lien entre le réchauffement et les incendies. Selon une étude du Climate Change Policy Index, le pays se retrouve même parmi les 6 pays au monde qui font le moins d'efforts face au changement climatique. L'une des raisons citées par le journal serait les interdépendances entre l'influente industrie du charbon dans le pays et les partis politiques au pouvoir.
DW. Le sport. Sophie Serbini.
Et Sophie, vous nous parlez de David Stern, considéré comme le dirigeant sportif le plus influent de l'histoire des États-Unis. L'ancien patron de la NBA est décédé hier à l'âge de 77 ans.
Pendant 30 ans, de 1984 à 2014, David Stern a dirigé d'une main de fer la NBA pour en faire la ligue la plus influente du monde, tous sports confondus. Lorsque le natif de New York prend les rênes de l'organisation, le championnat nord-américain de basket jouit d'une bonne popularité aux États-Unis, mais reste à des années-lumière des ligues de baseball et de football américain. David Stern décide alors de s'appuyer sur les exploits de Magic Johnson et de Larry Bird et de leurs clubs respectifs des Los Angeles Lakers et des Boston Celtics pour faire de l'NBA le sport de la jeunesse, un sport spectaculaire, engagé mais non violent, qu'il décide de faire diffuser en direct à la télévision et non en différé comme c'était normalement l'usage à l'époque. Avec l'arrivée de Michael Jordan sur les parquets, David Stern décide d'aller plus loin et se sert du plus grand talent que le basket n'ait jamais connu pour populariser la NBA partout dans le monde, devant les exploits du joueur et de son club des Chicago Bulls dans les années 1990, la Ligue commence à diffuser des matchs sur tous les continents. En menant la NBA à la conquête du globe, David Stern ouvre la porte à de plus en plus de joueurs non-américains, comme l'Allemand Dirk Nowitzki, le Congolais Dikembe Mutombo, le Français Tony Parker ou le Chinois Yao Ming. Plus qu'un sport, le basket made in USA devient un art de vivre. Les jeunes s'arrachent chaussures au nom des stars et maillots. Les sponsors dépensent en conséquence des fortunes pour s'arracher l'image des meilleures stars du jeu. Au bord de la faillite au début des années 1980, la NBA se transforme en championnat le plus riche du monde et s'agrandit de 7 nouveaux clubs. Sous les multiples mandats de David Stern, le salaire moyen des joueurs passe de 250 000 dollars par saison à plus de 5 millions. Mais au-delà de ces choix financiers qui ont propulsé la NBA sur une autre planète, l'ancien dirigeant est aussi loué pour son engagement social, notamment sur les questions raciales et sur le sida. Il a tellement fait pour l'histoire, a déclaré Magic Johnson, première star mondiale, à avoir avoué être porteur du virus, avant d'ajouter « Quand j'ai annoncé en 1991 que j'avais contracté le VIH, les gens pensaient qu'ils auraient le sida en me serrant la main. Quand David m'a permis de jouer le All-Star Game en 1992, puis de participer aux Jeux Olympiques de Barcelone avec la Dream Team, nous avons pu changer le monde. »
Il est 17h30, Anthony Versel, vous êtes à l'écoute de la DW. Sandrine Blanchard pour Droits et Libertés, avec une invitée qui, elle aussi, aimerait bien changer le monde.